votre nouveau rendez-vous sur la Hip Hop Soul Radio.
Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio. C'est la Malle, le pistolero pour l'Octogone. L'Octogone, c'est tous les dimanches. Ouais, tous les dimanches. Aujourd'hui, on est avec Hocine. Hocine, c'est une grande personne, un grand entrepreneur, gérant de plusieurs entreprises et un investisseur hors pair. Il a également aussi sa chaîne YouTube, hein, où il filme son quotidien et son travail. Il fait souvent aussi parfois des interviews où il se met des mises en situation et, comme je te disais aussi en off, des lifestyles incroyables. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Il est directeur général du groupe CTBG. Voilà, directeur général du groupe CTBG, qui compte plus d'une centaine de collaborateurs. C'est une entreprise spécialisée dans la toiture, l'isolation, les façades en France. L'entreprise s'adresse à tous les particuliers qui souhaitent rénover, protéger leur maison. Dis-moi si je me trompe, mais bon. C'est bon. On est bien pour l'instant. C'est ça. Le slogan, justement, de cette entreprise CTBG, c'est « Et si la rénovation devenait plus plaisante ?»
Tout à fait.
Voilà. C'est le co-gérant aussi de Ozen Drink.
C'est ça.
Voilà, depuis 2016, une entreprise qui commercialise une gamme de boissons avec de l'eau, du goût magique et magnifique. Voilà, boissons rafraîchissantes, avec sans édulcorant et conservateurs.
Exactement.
Voilà, c'est important et c'est produit en France en plus.
Tout à fait.
Voilà. Il est aussi gérant de Anarchy Barber depuis 2017.
Ouais.
Exactement, une boutique qui propose de nombreuses prestations, coiffures, pour hommes, pour femmes, barbe, épilation, c'est pour ça que t'as
couleur.
Une...
Faut que tu viennes un jour.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as une belle barbe, moi
merci.
Voilà, je vais faire mes couleurs là-bas, hein, coloration, lissage, etc.
Ouais.
Voilà, parfait. Et t'investis aussi depuis 2020 dans 6.3, c'est ça, Record ?
C'est ça.
C'est ça, ce projet de court-métrage.
Ouais, et puis audio aussi, parce qu'on est sur l'album d'Alonso,
ouais.
Les deux derniers.
C'est ça.
C'est nous. Ouais. Du coup, c'est un projet qui fonctionne bien et c'est dirigé par Spike Miller.
Justement, Alonso, que j'ai reçu aussi dans mon émission, un homme magique et magnifique. Et justement, en parlant de ça, je disais que l'entourage d'Alonso, son entourage est magique et magnifique.
Ouais.
Et en vrai, bah voilà, tu t'en fais partie.
Exactement.
Et ça prouve que t'es une personne magique et magnifique.
Merci.
Mais les gens auront l'occasion de pouvoir en découvrir plus sur toi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton parcours incroyable. Hocine, pour moi, ton parcours est incroyable. J'ai décidé de t'inviter dans l'Octogone. J'aimerais que tu commences par nous raconter déjà ton parcours, déjà, bonsoir. Comment tu vas ? Ouais, ça va top.
Un peu stressé parce que pour moi, c'est une première.
Ouais.
Mais je vais la faire naturellement.
Ouais, on est en famille, voilà, ne t'en fais pas.
Exactement.
Tout va bien se passer. Les gens savent en plus et connaissent mon émission. Tout est tranquille. Il n'y a pas de stress. On est ensemble. Moi, j'aimerais. Ah, t'es passionné aussi de voitures de luxe. Hein.
C'est ça.
Ouais, j'ai pu voir. J'ai pu voir sur ton Insta.
On a tous des passions un peu différentes, mais elles nous regroupent un peu tous.
Mm.
On a le foot, on a le lifestyle, les voitures, donc du coup, c'est bien.
Ouais, on va en parler justement petit à petit crescendo. Moi déjà, je veux que tu nous racontes un peu ton parcours incroyable. Tout à l'heure, j'ai cité un peu de ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es arrivé là.
Mm-hmm.
On veut le savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et pour moi, t'es un modèle de réussite pour ces gens-là, et pour moi aussi.
Je vais commencer parce que pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est important de montrer aux jeunes, pas que les jeunes de 20 à 25 ans, mais aux adolescents, que dès le plus jeune âge, on peut prendre la bonne direction, même si des fois, on peut avoir un parcours. En tout cas, le mien était un peu atypique, voire parfois chaotique. Mais grâce à l'éducation de mes parents, à certains repères, à des gens qui te poussent vers l'avant, ils m'ont permis de comprendre, même si je l'ai compris tard, mine de rien, mais c'est pas aujourd'hui. Pas pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi, entre guillemets. Attention, que je sois bien clair, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, atteindre les sommets des montagnes, c'est facile. Le plus dur, c'est d'y rester.
Voilà. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Exactement. Et donc, du coup, il y a un travail de longue haleine à préparer. Et c'est pas parce que tu es en échec scolaire, entre guillemets, qu'on va te faire croire que c'est fini, que c'est voué à l'échec et on va te mettre dans une classe sociale qui te ressemble pas du tout. Et que tu vas pas pouvoir te donner les armes de réussir. Non, faut s'en donner les moyens. C'est compliqué, c'est vrai. Il y a des règles qui sont importantes. Moi, je vais te donner mes règles que je me suis instaurées au fur et à mesure de mon cursus personnel et professionnel et qui aujourd'hui m'ont permis de réussir. Alors, c'est peut-être pas une recette qui va marcher pour tout le monde, mais au moins, je divulgue celle qui a marché pour moi.
Mmh. avant de parler de tes règles, justement, c'est très important. Moi aussi, je veux les connaître parce que j'ai envie de réussir comme t'as réussi. T'inquiète pas, je vais bien les noter, ces règles-là. J'ai pris un stylo, un cahier, je suis prêt. Moi, je veux que tu me racontes un peu ton parcours, ton cursus scolaire.
Ok.
Justement, comment ça... T'étais bon à l'école ?
Alors, j'avais un potentiel.
Ok.
D'accord, comme tous, on a tous chacun un potentiel. Mais figure-toi, je vais commencer par le collège. Parce que c'est important pour moi, vraiment pour les adolescents qui sont en échec scolaire, de comprendre que on peut tomber bas, mais une fois que t'es tombé, tu peux que te relever.
Ouais.
Voilà, ça c'est important. Moi, j'ai un cursus, mais quand je te dis atypique et même parfois chaotique, mais tu vas le comprendre dans mon récit, c'est que j'ai fait une sixième normale, j'arrive dans un collège public, donc je fais ma cinquième, ça se passe plutôt mal. Donc on décide à la cinquième de me faire redoubler. Bon, moi je dis pourquoi pas, peut-être que ça va m'aider. Deuxième, cinquième, c'est catastrophique, c'est pire qu'avant. Je peux pas te donner les vraies raisons, alors que j'avais un potentiel. Décrochage scolaire peut-être, ou peut-être que les professeurs me donnaient pas trop envie d'apprendre ou quoi que ce soit, mais j'avais complètement décroché. Et à l'époque, ils avaient proposé à mes parents de tout de suite me sortir du cursus scolaire normal et d'aller apprendre un métier. Mais t'as vu, quand t'es en cinquième, t'es jeune. Déjà, tu sais même pas ce que tu veux faire toi. Alors en plus de ça, si on te sort d'un cursus scolaire normal, bah t'es perdu, tu vois. Donc mes parents, j'avais la chance que mes parents étaient derrière moi, donc ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient entre les mains à l'époque, donc pas grand chose, parce que mon père était paysagiste et ma mère assistante maternelle. Nous on est cinq enfants, d'accord, 4 frères, 1 sœur,
d'origine algérienne.
Ouais, et moi je suis le plus grand.
Des aides, c'est important de le dire.
Ouais. Non mais je suis le plus grand.
T'as un drapeau là?
Non. Moi j'étais le plus grand, donc du coup tu sais très bien comment ça se passe, faut montrer le bon chemin, etc. Et ça a mal commencé. Donc, les armes de mes parents, c'est de dire, écoutez, nous, on est derrière notre fils, on va essayer de l'aider, on va essayer de le pousser, on va essayer de l'inscrire à des études, ramener des profs à la maison, etc., mais on veut pas qu'il décroche. Merci. Aidez-nous. Et la solution que vous avez apportée à l'époque à mes parents, c'est que, aujourd'hui, ça s'appelle pas comme ça, moi, je devais faire soit une quatrième normale, soit une quatrième pro, avec option compta, parce qu'à l'époque, ça existait, ou une quatrième aide et soutien. Et, en fait, aide et soutien, c'est un mot déguisé. C'est SECPA. Voilà. Donc j'ai fait de la SECPA. Donc j'ai fait un an. Et là, en fait, j'ai eu un électrochoc. Là, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel, mais que là où on m'avait mis, c'était pas ma place. Parce que je me suis retrouvé vulgairement avec des cassos qui avaient 2-3 ans de plus que moi, qui fumaient. Moi, c'était pas du tout mon monde. Tu vois, j'étais choqué.
Justement, on parle de la SECPA. Je parle souvent dans mes émissions des gens qui ont fait de la SECPA et autres. Et franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, je savais même pas que t'avais fait de la SECPA avant qu'on en discute. Et je prends souvent comme exemple, je dis souvent, on se moquait d'eux, on se moquait de ces gens-là, qu'on fait de la SECPA, etc. On disait, voilà, comme tu disais, comme on les prenait pour des cassos. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont chefs d'entreprise, qui ont des grosses entreprises, qui te croisent au feu rouge avec un gros 4x4. Ils te regardent et toi, t'es dans ta petite Twingo tranquille. Ils disent, ah, ça va, tu deviens quoi? Et en vrai, ça prouve que ça veut rien dire. Que dans la vie, on peut aller avoir des chemins différents, mais arriver.
On a tous le même objectif. Ouais, pas de problème. Donc du coup, j'ai passé une année où je me suis remis en question. Et en fait, mes parents, ils ont compris que j'avais compris que il fallait que je travaille, quoi. Et que la place où j'étais n'était pas la mienne. Il fallait que je trouve absolument le moyen de rentrer dans un cursus normal.
Excuse-moi, quand on est en SECPA, parce que c'est intriguant, moi ça m'intrigue, parce que à chaque fois je les voyais, ils faisaient des pains au chocolat, ils faisaient
des
l'agriculture,
ateliers,
etc. Comment ça se passe à l'intérieur du...
C'est vivant, tu rigoles.
Okay.
T'es entouré de gens qui veulent que rigoler, t'apprends des petits trucs, des petits tips de métier, etc. Mais voilà, c'est comme si je t'avais dit, j'avais passé une année sabbatique.
Ouais. On vous apprend vraiment les métiers? On vous apprend à travailler, enfin à rentrer dans...
On fait des ateliers, on fait de la théorie, un peu de pratique... Voilà, on parle un peu de tout et de rien, ils te ressortent des poésies que t'as appris à l'école primaire, donc tu vois, c'est vraiment, c'est pas complet comme cursus. Donc du coup, moi, en tout cas, je parle pour moi, c'était pas un endroit qui me ressemblait, et j'avais compris. Donc du coup, mes parents, ils ont essayé de m'aider à me faire rentrer. Et leur aide, elle a été très importante, parce que sans eux, jamais, jamais, encore une fois, j'en serais arrivé là. Ils se sont sacrifiés. Ils m'ont inscrit dans un lycée, donc un collège privé.
Ok.
D'accord. Donc ils m'ont sorti du cursus public, ils m'ont mis dans un collège privé. Donc j'ai fait une quatrième option compta.
Okay.
Quatrième professionnelle, option compta. Donc tu vois, j'ai fait cinquième, quatrième aide de soutien, quatrième pro compta. Donc il y a 4 ans qui sont passés. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme.
4 ans de retard, on va dire.
De surplace.
Voilà.
De surplace. Mais c'était comme ça. C'était le prix à payer, en tout cas. Donc j'ai fait ma 4ème pro. J'étais dans un lycée, donc dans un collège privé. Moins de personnes dans les classes, plus encadré. Et c'est ce qu'il me fallait, avoir un peu plus d'attention. Encore aujourd'hui, hein, j'aime qu'on me donne de l'attention. Donc tu vois, mine de rien, à l'époque, on m'a donné de l'attention que j'attendais, que j'avais jamais eu auparavant. Et là, je l'ai retrouvé dans un collège privé. Donc j'ai fait 4ème pro compta, 3ème pro compta, je décroche le brevet des collèges. C'est bien. Bon, un mec étant en échec scolaire,
très lourd.
Brevet. Et à l'époque, les diplômes, ils avaient un sens, ils avaient une valeur.
C'était dur à avoir,
tout à fait.
Ah oui.
Ouais. Tu vois, aujourd'hui, peut-être que les jeunes, ils ont peut-être pas la même valeur, mais je peux t'assurer qu'à l'époque, quand je suis venu chez moi avec le brevet des collèges, mes parents, ils étaient fiers de moi. On parle que du brevet.
Oui, bien sûr.
La chance que j'avais dans ce collège, c'est qu'ils faisaient aussi BEP compta. Donc j'ai dit, allez, bah, je continue mon cursus comptabilité. Donc je suis pas avoué être comptable ou faire de la compta, mais vu que je suis bien entouré, je continue. J'ai fait ma petite seconde donc pro en compta, tu vois, mes 2 années, BEP, première et deuxième, je décroche mon BEP, comptabilité. Encore une fois, j'avais mes parents derrière moi, j'avais de l'attention, on n'était pas beaucoup d'élèves à l'école, je fréquentais pas les mêmes personnes. À l'époque, les gens qui allaient dans le privé, t'as compris, c'est pas
bien
les
sûr,
mêmes qu'aujourd'hui.
Pas les mêmes que les publics.
Voilà, donc du coup, je me suis retrouvé dans une sphère où les gens allaient à l'école pour travailler.
C'est important de le dire parce que il faut... se rendre compte que quand voilà il y a un décrochage scolaire et que l'élève ne veut plus, tu vois, l'enfant ne veut plus, les parents qui sont derrière et qui se disent il y a toujours une solution à un problème. C'est-à-dire que si l'enfant a un problème quelque part, quoi qu'il arrive, il y aura une solution.
C'est
ou peut-être ça peut être le contraire. Si c'est dans le privé et que ton enfant il se sent pas très bien, peut-être qu'aller dans le public, ça serait...
Exactement.
Mais en tout cas, chaque problème a sa solution.
Voilà. Donc je décroche le BEP compta, mes parents super contents et tout nanan. Et là en fait, on se retrouve où, bah, là où j'étais, ils ne faisaient pas de bac pro compta. Donc, bah, je continue un cursus normal, bac pro compta, comptabilité, non compta, mais en public. Et là, c'est la chute.
Ah ouais.
Je fais une année catastrophe. Bah, je me retrouve avec les mecs de ma cité, les mecs de Massy, les Ulysse, etc. T'as compris? Mes amis, on rigole. Année catastrophique. J'oublie tout ce que j'ai vécu, tous les sacrifices de mes parents à l'époque. À la fin de l'année, on me dit, bah, soit il sort, soit il redouble. Et mes parents me disent, mais attends, on vient de passer 4 ans magnifiques. T'as souffert 4 ans auparavant. Comment tu peux nous faire ça, etc., etc. Comment tu peux nous faire ça alors que... Donc je comprends que j'ai fait une grosse erreur et j'étais amnésique. T'as compris, on oublie souvent les sacrifices des gens.
Souvent je dis, tu sais, comme t'es malade, tu veux juste ne plus être malade. Une fois que t'es plus malade, t'as oublié.
Exactement.
T'es tranquille, et tu ressors découvert.
Voilà, ouais,
tu mets pas ton écharpe et autres. Et la vie, elle est comme ça. L'être humain, c'est ça.
Voilà, l'être humain, il est comme ça. On est un peu ingrat, indirectement, tu vois. Donc du coup, bah, je comprends. Donc, je refais une bac pro, d'accord? Donc, ils m'envoient à Fresnes.
Il y a de la moquerie des gens, parce que tu as passé 4 ans quand même, tu as 4 ans de retard, plus là encore, ça veut dire 5 ans de retard. Est-ce que tu es plus vieux de l'école?
Ouais.
Enfin, tu es plus vieux de la classe. Est-ce qu'il y a des moqueries?
Ouais, un peu, bien sûr. Bien sûr.
Et bah, comment on les vit?
Bah, tu le vis mal, mais vu que je suis quelqu'un qui intériorise tout, bah, en fait, je ne m'exprime pas, je suis quelqu'un de très réservé, etc. Donc, en fait, je subis, mais à l'intérieur. Toi, ça me ronge de l'intérieur. Mais après, quand tu vois le visage de tes parents, la souffrance de tes parents, bah, tu dis, bah, finalement, je suis pas si mal loti que ça. À toi de faire les efforts. La chance que j'ai eue, quand j'ai redoublé, c'est que je suis tombé dans une classe où, bah, il y avait plus de personnes qui voulaient s'en sortir que de personnes qui voulaient rigoler. Donc, du coup, moi, bah, je me plie à la majorité. Donc, c'est grâce à cette classe-là où j'ai passé 2 ans encore magnifiques, toujours en public, hein. Mais sauf que les gens voulaient travailler. Bah, là, j'ai travaillé, en fait. Tu vois? J'ai travaillé, j'ai passé 2 belles années, j'ai rencontré des gens formidables. 2 parmi eux, c'est toujours mes amis aujourd'hui, mes meilleurs amis, tu vois, Faudet et Alexandre, que je salue, que je vois souvent.
Grosse dédicace.
Ouais. Donc, du coup, j'étais bien entouré et j'ai décroché mon bac pro compta. Donc, tu vois, déjà, j'ai 3 diplômes. Mais j'ai redoublé. Regarde combien de fois.
Ouais,
j'ai 4-5 ans de retard.
Ouais, mais...
Tu vois, mais je sors quand même avec les diplômes.
Ouais.
Donc, tu vois, des fois, on va te dire, bah, on a peut-être le même objectif, mais peut-être que le parcours sera différent, peut-être plus long pour certains, plus périlleux pour d'autres. Mais à la finale, tu y arrives. Faut juste persévérer.
Exactement.
Voilà. Donc, une fois que je sors avec mon bac pro compta, je sais pas ce que je voulais faire, réellement. Est-ce que je continue un BTS compta? Et j'apprends qu'il y a un BTS qui vient de sortir, qui s'appelle BTS assistant de gestion PME-PMI. Putain, rien que le nom, déjà, il en jette. Donc, je m'intéresse. Et dedans, il y avait un peu de compta, un peu d'administratif, un peu de gestion. Et je dis, putain, c'est un truc polyvalent. Vas-y, moi, j'aime pas les petites cases. Je veux les 3 cases. Donc j'y vais. Donc je me retrouve en BTS, assistant de gestion PME PMI, en public toujours, d'accord. Je passe une mauvaise année parce que je me retrouve à Fresnes. Tu vois, lycée Mistral à Fresnes.
J'étais là-bas.
Ah ouais.
Ouais. Ouais.
J'étais là-bas. Mistral.
Ouais. Ah, en quelle année?
En 2001-2002.
Ouais, je me souviens plus, moi, ça, je suis amnésique, mais 2001, j'étais là-bas, c'est Mistral, je connais très voilà, bien, donc Frédéric Mistral.
C'est ça, ouais. Je tombe avec des mecs de Bagneux, de Cachan, d'Arcueil, Fresnes, donc je les connais, on rigole. Hein. Je redouble, on me propose de redoubler. On me propose, je dis putain, mais attends, à mon âge, je peux pas. Donc c'est soit je sors et je vais travailler, soit je trouve une alternative. Et tu vois, moi j'ai une qualité, c'est que j'ai toujours été culotté dans ma vie, j'ai toujours osé. J'entends parler d'un centre de formation qui est à Bourg-la-Reine, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est à Bourg-la-Reine, qui fait donc BTS, assistant de gestion PME PMI, mais en alternance. Donc je vais les voir. Tu vois, j'ai bien préparé mon speech. Je vais les voir. Je leur dis, écoutez, moi, je suis en cursus normal. Je suis admis à passer en deuxième année. Mais moi, la théorie, j'en ai marre. Je veux un peu de pratique. Je veux l'alternance, quoi. Je veux allier ma théorie à la pratique, tu vois. Et quand je fais ma petite déballe, bah, la directrice, bah, elle kiffe ce que je suis en train de lui dire, tu vois. Elle dit, putain, il a compris, lui. Donc je vais l'aider. Donc elle me prend sous son aile dans son centre de formation, dans son école. Elle me trouve. Fallait trouver une entreprise qui t'accepte. Tu vois, en cours d'année.
Bien sûr. Bien sûr.
Rester, au lieu de rester 2 ans, tu restes 1 an. Donc elle trouve. Tout se passe bien. Elle me trouve mon ancien patron qui s'appelait Alain Claverie. Donc c'était une petite miroiterie Paris 12e, pas très loin d'ici, tu vois. Donc Phoenix Industrie Service, ça s'appelait. C'est une petite miroiterie familiale. Il me prend sous son aile, le patron. Il me dit, écoute, moi je recherche un assistant à mi-temps. Donc, t'as un alternance, ça me convient, mais je veux quelqu'un de sérieux. Donc, moi, je vois que j'ai la chance de ma vie.
T'as la chance, ouais.
D'un côté, on propose de redoubler.
Ouais.
Et là, on me dit, tu passes en deuxième année, mais en alternance avec, t'as compris? Donc, j'y vais. Ok, j'y vais à fond. Donc, je m'inscris, tout se passe bien, l'année et tout, nanan. Je décroche mon BTS, assistant de gestion PME, PMI. Mais je sais pas si tu te rends compte. Tu vois d'où je viens? J'arrive avec 4 diplômes.
Incroyable.
Je vais venir.
Incroyable, incroyable.
Donc, j'arrive, fin d'année, le patron super content et tout, nanan, il me dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, écoute, vu comment tu m'as formé, vu comment tu m'as gardé, j'aimerais rester avec toi. C'est une entreprise familiale, vous êtes 4-5. J'ai ma chance. Mais lui, à l'époque, malheureusement, c'était un petit artisan, il avait pas les moyens de me payer. À l'école, c'est facile, c'est des petits forfaits.
Bien sûr.
Mais quand tu rentres dans la CDI, dans la vraie vie, avec des vrais postes, voilà, là, on parlait à l'époque de 2000 euros net par mois, lui, il pouvait pas les payer. Donc, je me dis quoi? Bon, bah, faut que je trouve quelque chose. Je trouve pas de société et tout. Et je dis, bon, je vais faire une petite année avec le même centre de formation. Je vais faire une licence de gestion européenne.
C'est quoi exactement? Excuse-moi de revenir en arrière. Tu me disais assistance, PMI, PME,
etc. PME, PMI, ouais.
PME, PMI. Ça consiste en quoi exactement cette formation?
Bah, en fait, c'est pour les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries.
Ouais.
Tu as des postes comme contrôleur de gestion, comme assistant comptable, comme assistant administratif, donc tu touches à tout.
Okay.
D'accord. Et quand tu as un profil comme celui-ci dans une société, bah pour le patron, au lieu d'avoir un assistant comptable, un assistant admin, et un
lui, il a un peu ce.
Il a un peu cette. Voilà.
Cette panne.
En plus, je suis un couteau suisse.
Mmh.
Voilà, je suis vu pour une entreprise comme un petit couteau suisse, tu vois. Donc c'est ça qui j'aimais bien moi dans ce poste-là, parce qu'on apprenait pas mal de choses.
Et c'est recherché.
Et c'est recherché.
C'est comme au foot, quand t'as un joueur qui peut jouer défenseur droit, latéral, milieu offensif, milieu défensif, tu es le chouchou un peu de l'entraîneur.
Il vaut plus cher.
Exactement.
T'as compris? Bon, moi c'est dans cette voie-là. Donc je me lance sur la licence et tout, et pendant une année, grâce au centre de formation, je décroche ma licence. Donc bac plus 3. Je suis fier. T'as vu d'où je viens et tous mes parents super fiers de moi et tout nanan. Mais là, c'est l'heure de rentrer dans la vie active. Et là, tu vois, et là, ça devient très dur. Donc, comment je fais? Mon père me dit, bon, écoute, là, t'arrives en fin d'année scolaire, juin, trouve un travail juillet, août, tu vois, ouais. Et on verra pour la rentrée. Donc, je travaille de nuit en tant que manutentionnaire à Vissou, dans des zones frigorifiques. Je travaille dans le poisson et tout, et je travaillais que de nuit, tu vois, de 20h à 6h du matin. Mais je gagnais bien, je gagnais pas peut-être 2500 euros net en intérim.
Ouais.
Ouais, tu vois, en intérim pendant deux mois, c'était bien, tu vois. J'étais content et tout, tu vois. Et je connaissais la valeur de l'argent, tu sais pourquoi? Je vais revenir un peu en arrière parce que depuis mon plus jeune âge, 16 ans, 17 ans, j'ai toujours travaillé. J'ai fait pizzaïolo.
Ok.
Donc, dans une petite pizza à Palaiseau. J'ai fait aussi, j'ai travaillé à Pizza Hut à Massy. Je faisais la plonge, d'accord, le samedi, dimanche. Mon père, quand il était paysagiste, il travaillait pour le groupe Foncia. Et dans sa résidence, il y avait des petits immeubles. Et je faisais le ménage là-bas aussi. Après l'école, le soir, je faisais 18h, 20h, je faisais des. Il y a des jours, je sortais les poubelles et des jours, il fallait que je fasse la serpillière ou le balai, tu vois. J'ai toujours travaillé. Mon père m'a toujours donné cette éducation de connaître la valeur de l'argent quand ça
tombe.
Voilà, suer.
La sueur de ton front.
Tu vois. Et quand tu connais ce que vaut un euro par rapport à la sueur de ton front, bah, t'intègres des valeurs en toi. Tu respectes l'argent, tu respectes même le travail des autres. Parce que tu sais ce que c'est. Parce que même si tu montes les échelons, tu sais ce que c'est d'avoir la vie d'un ouvrier.
Parce que tu l'as fait.
Parce que tu l'as fait, donc tu le respectes, le bonhomme. C'est ce que je veux dire. C'est pas parce qu'il gagne 1 500, 2 000, 3 000 que toi tu gagnes beaucoup plus que tu dois pas respecter. Aujourd'hui, malheureusement, on respecte les gens que par leur statut social. Tu vois.
Excuse-moi, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que généralement, les gens qui touchent, on va dire, tu sais, des grosses sommes, on va dire, dans des grosses entreprises, c'est ceux peut-être qui ont beaucoup de diplômes, donc ils ont pas la pratique, ils ont juste la théorie, donc ça veut dire ils ont fait des grosses études, oui. Et une fois qu'ils arrivent en entreprise, c'est des gros directeurs, c'est etc. Ça, et ils sont pas passés par la case,
non.
Comme tu disais, la plonge, etc., par tout en bas. Okay.
Donc moi, en étant passé par là, donc je reviens un peu sur mon cursus, c'est important pour moi d'en parler, je sors de l'école, et en fait, mon père il me dit, bon, tu travailles pendant des 2 mois, à la rentrée, tu vas les démarcher. Ok. Et figure-toi qu'à l'époque, on ne faisait pas des lettres de motivation à l'ordinateur. Mon père, mon père me forçait à faire des lettres de motivation à la main, manuscrite. Il me dit, t'as un profil atypique, faut que tu fasses des lettres de motivation personnalisées. Faut que les gens voient que t'as pris le temps pour sa société. Tu fais pas de publipostage, tu fais toujours la même lettre et tu rentres les sociétés et t'en fais 50. Non. Donc pendant des jours et des jours, la malle, j'écrivais, j'essayais de même de bien écrire parce que mon père, il était très strict, tu vois. Et quand il y avait une lettre qui était un peu tordue, parce qu'à force d'écrire, t'écris mal.
Ouais,
on va pas se mentir, je refais. Et donc je refaisais mes lettres manuscrites à la main, lettres de motivation à la main et tout. Et quand lui validait, bah j'allais prospecter dans les zones industrielles, etc. Et j'ai prospecté pendant 3-4 mois, en vain. En vain. Pas de retour, très peu, mais que du négatif. Voilà. Et moi, en fait, je me suis dit, je sors avec un bac plus 3. Je me confronte à la réalité où on me ferme des portes. Où on me dit, mais monsieur, ok, vous êtes intéressant, mais on veut quelqu'un avec de l'expérience. Mais comment tu veux que j'ai de l'expérience si toi, tu me donnes pas ma chance? Et je leur disais même, si mon poste, il vaut 2 000, donne-moi le SMIC.
Donnez-moi
le SMIC. Ah oui, à me sacrifier parce qu'il fallait que je rentre. Et je connaissais mon potentiel maintenant que j'avais appris et tout. Fallait que je fasse ma place, tu vois. Mais personne ne me l'a donné.
C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. En off, on disait juste rentrer, montrer, prouver sa valeur.
Voilà.
Et après,
voilà.
on est sûr de nous.
C'est
on sait qu'une fois qu'on est dedans, on maîtrise notre sujet et on va bien le faire. Et après, voilà, là, ils vont avoir confiance en nous.
C'est
on va pouvoir.
Exactement. Donc, hormis la persévérance qu'il faut avoir au quotidien, il faut aussi être patient. C'est ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, soyez patient, n'attendez pas d'avoir tout de suite. Il n'y a pas de règles dans la vie. Je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui disent, ouais, moi, à 30 ans, faut que je sois marié, 2 enfants, avec une maison. Non. Si tu fais ça, c'est bien. Mais si tu n'y arrives pas, pour toi, ça va être vu comme un échec. Et cet échec-là, il va te dire, putain, merde, je me suis loupé. Alors que non. En fait, on a chacun notre temps de réussite. On va tous briller un jour ou l'autre. Faut que, au moment, le train, il arrive, soyez prêt. Faut être prêt, en fait. Ça, il peut venir à 20 ans, comme à 25, comme à 30, comme à 40. Il n'y a pas d'âge. Mais faut juste être prêt. Et pour être prêt, faut se préparer. Donc, faut toujours être prêt à qu'on te sollicite. Mais voilà, faut se cultiver, faut lire des livres. C'est ce que je dis aux jeunes. Lisez, cultivez-vous. C'est trop important. Arrêtez de regarder TikTok et tout. C'est pas la vie, ça. Bon, bref. Donc, je continue. Donc, je fais même la demi-scrute. Ça marche pas et tout. Et j'avais un pote à moi, Mbar, qui travaillait à cas par cas. Donc, société commerciale de fenêtres. Et moi, j'ai toujours dit la malle. Je te dis la vérité. Je ferai tous les métiers du monde. Mais jamais commercial. Jamais commercial. Pourquoi
pour
je suis quelqu'un
raison.
De parce que je suis quelqu'un de timide, de réservé. T'as compris? J'avais pas ce truc-là. Non, j'arrive pas. Je n'arrivais pas. C'était pas mon truc.
Non, mais c'est bien parce que il faut aussi savoir ses qualités et je vais pas dire ses défauts parce que c'est pas un défaut, mais c'est peut-être une qualité justement de reconnaître ses faiblesses.
Exactement.
Ou de dire que voilà, moi je suis pas, c'est pas pour moi.
Ouais.
C'est pour quelqu'un d'autre, moi
voilà,
en tout cas,
ouais.
Voilà. Et ça, c'est une qualité,
et
c'est
moi,
une force.
Voilà. Moi, j'en étais là à dire, voilà, je ferai tous les métiers du monde, mais pas ça. Et donc, il vient me voir, il me fait, écoute, Tosin, t'es sorti de l'école, c'est bien, t'es diplômé, mais tu galères, frère. T'es en train de galérer. Rentre dans le monde du travail, même si c'est pas le poste que tu recherches. Rentre, viens apprendre un métier, ça te fera une ligne de plus dans ton CV. Au pire des cas, t'auras perdu quoi? Un peu de temps, mais t'auras quand même gagné de l'argent, t'auras acquis une expérience, viens. Il insiste en plus. Et franchement, je le remercierai jamais assez, Mba. Parce que c'est lui qui m'a donné le déclic indirectement. Donc
c'est pas un mec de Cachan, Mbar?
Si, c'est lui. Ouais.
Je le connais.
Ouais. Ouais,
je connais. Ouais, grosse dédicace à Mbar.
Donc c'est lui. Okay. T'as compris? Donc je rentre avec lui chez cas par cas et tout. Je me fais former commercial, porte à porte, je vais en clientèle. Et là, je me découvre une âme commerciale. Les gens font confiance parce que t'as vu, j'ai des principes. C'est-à-dire que si je viens chez toi, je te préconise de changer ta fenêtre, c'est comme si moi-même, je me sens à ta place et je l'aurais changé. Je te préconise pas des travaux si je les aurais pas préconisés pour moi-même. Donc du coup, les gens, grâce à leur regard, grâce à leur confiance qu'ils me donnent en signant des contrats avec moi, j'ai dit, ah putain, je suis en train de me découvrir là, je suis content. Les responsables me font de plus en plus confiance, ils me donnent des rendez-vous, j'y vais, je signe, tout se passe bien.
Comment t'as réussi à passer justement ce cap de, voilà, de base t'es quelqu'un de réservé, et là fallait y aller, tu te lances dans le grand bain.
J'étais devant la réalité.
Ouais, c'était, voilà.
C'est
l'instinct
des
êtres humains.
Des aides, je sais pas.
L'instinct des aides, voilà,
c'est ça. Il fallait que j'y arrive, j'avais pas le choix, c'est ce que je veux dire. Donc même si dans ma tête j'avais ce truc de dire, t'es que de passage, mais fais le bien. T'as compris? Peu importe ce que vous faites, faites les choses bien. Parce que vous savez pas, demain...
Laisse une bonne image de toi, laisse une bonne trace, voilà, au moins.
Toujours, toujours. Donc tout se passe bien, ça se passe bien. J'ai pas de véhicule de fonction, c'est ma voiture à moi. Je paye mon essence, mais j'ai mes rendez-vous. Porte à porte, phoning le soir et tout. Et je travaillais, mais charbonnais à la malle. Je faisais 9h, midi, porte à porte. Entre midi et deux, on mangeait. L'après-midi, de 14h à 18h, on faisait les rendez-vous qu'on avait réussi à avoir la veille ou à 48h. Et de 18h à 21h, je faisais du phoning. Et ça, du lundi au samedi. Donc, tu vois comment c'était dur. Mais j'avais pas le choix, tu vois. Donc, charbonnais, mais ça payait parce qu'à l'époque, j'arrivais à gagner 2000 euros par mois. Et je te jure, c'était pour moi, c'était bien. Mais tu sais pourquoi pour moi, c'était bien? Parce que j'avais toujours la référence de mes parents. Mes parents, ils gagnaient 1005 chacun. Ils ont élevé 5 enfants. Donc quand tu dis tes parents ils ont gagné 1005 chacun et toi là, toute seule tu gagnes 2000, t'es sur la bonne voie aussi, continue. Compte pas tes heures, compte pas tes sacrifices, ça te coûte de l'argent, l'assurance, l'usure de la voiture, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va payer. Tu vois? Et j'étais dans cette optique-là, tu vois, dans cette dynamique-là de dire vas-y, j'y vais, je regarde pas derrière moi et je fonce. Si je me prends un mur, ben, je réfléchirai. Mais tant que j'avance, le mur il recule aussi, tu vois. J'ai toujours eu cette mentalité-là, moi, tu vois, d'être un fonceur, de jamais calculer en avance les retombées positives ou négatives. Et s'il y avait plus de négatifs, bah, j'abandonne le projet. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, je pratique la même chose. J'avance, je fais, je me mange un mur, bah, c'est une expérience. J'aurais perdu peut-être un peu de temps, un peu d'argent, mais au moins, j'aurais acquis de l'expérience. Et ça, c'est important, l'expérience.
Je ne perds jamais, car quand je gagne, et quand je perds, j'apprends.
Voilà.
Bravo.
Merci à toi. Donc, tu vois, j'en suis là, et en parallèle, j'ai un autre pote à moi, qui est commercial, Cédric, dans le bâtiment. Mais dans le bâtiment, travaux de rénovation, comme ce que je fais aujourd'hui. Sauf que lui, tu vois, moi, je faisais du phoning et du tap-tap pour avoir des rendez-vous. Lui, en fait, on lui fournissait les rendez-vous à l'époque.
Il attendait juste les rendez-vous, voilà. Et c'est lui qui
il avait une voiture de fonction, téléphone de fonction. Attends, et là, tu vas rigoler. Tom-tom de fonction. Oh. À l'époque, on n'avait pas de GPS.
Oh ouais.
Tu te rappelles ou quoi?
Ouais, bah oui, oui. C'est-à-dire, on fournit un GPS.
Clé en main. T'avais
oh
tout.
Ouais.
T'as compris? Et gagner 4-5 000 euros par mois. Et ah travailler ouais. Du lundi au vendredi. Donc je sais pas si tu vois le.
Ouais,
lui était là, moi j'étais là-bas.
Ouais.
Donc là je prends ma décision de le
et
rejoindre.
Quand il te regardait en mode.
Mais je foutais de ma gueule.
Ouais, je t'explique mais... aussi.
T'es en train de faire le larbin là.
Mais il mettait des costards, tout ça.
Ouais.
Ouais.
Moi et je mettais des costards, mais lui non, il était en jean basket.
Ah, il était des contrats.
Des contrats.
Pas besoin. Tout vient à WAM.
Voilà. Je vais en clientèle, je suis bien présenté. Tant que ce que je vends, c'est bon.
Mmh.
Et donc, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, il me relance.
C'était le quarterback du lycée.
Voilà.
Ouais, toutes les filles, elles sont là. Voilà. Le quarterback.
Exactement. Il me dit, viens, je te présente, mes patrons sont à la recherche de commerciaux.
Mmh.
J'y vais. Je passe un entretien. Écoute bien. Je tombe sur un fou. Un fou. J'ai jamais vu un mec comme lui. Un fou. J'ai dit, mais c'est pas un patron, ça. Il m'a parlé comme on m'a jamais parlé. T'es une merde ou t'es pas une merde. T'en veux ou t'en veux pas. Et moi, t'as vu, j'étais un peu timide et tout. Je dis, bah, je veux gagner de ma vie. Combien tu veux gagner? Je dis, bah, 1005. Il me dit, quoi? Il me dit, sors d'ici, tu dégages. Je dis, comment ça? Il me dit, tu penses que je vais te recruter parce que tu vas gagner 1005? Mais moi, si toi, tu gagnes 1005, moi, je vais gagner combien, moi? Je vais gagner des copinettes avec toi. Mais j'ai pas besoin de toi, en fait. Dégage. Mais comme ça. Je dis, non, attendez, on s'est mal compris.
1005 par jour.
Non, je dis, mais mon 1005, c'est ma référence. Maintenant, testez-moi, je vais gagner 4000, 5000. Est-ce que, je lui dis, mais est-ce que vous êtes prêt à m'aider pour que je gagne 4, 5, 6000? Il me dit, mais bien évidemment. Juste, est-ce que t'as la volonté de travailler, de gagner ta vie correctement? Je dis oui. Ok. Il me dit, bah, viens. Donc, je pose ma démission, je pars bien, je fais mes deux mois de préavis, Donc, à part qu'un peu dégoûté de parler d'un profil comme le mien et tout, mais c'est pas grave, tu vois. Je rentre dans la boîte, Immo France Prévention, à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Et je tombe que avec des loups. Des mecs de quartier. T'as vu, nous, on a l'âme commerciale. Parce que je veux dire, je tombe avec plein de profils différents, etc. Donc, là, je rentre dans la cour des grands. Mais des grands loups.
Ouais, ouais.
Moi, je suis une petite brebis. J'arrive et tout, donc j'apprends. Je reste à ma place, j'écoute. Ok, faut faire ça, je le fais. Il faut aller à gauche, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à droite. Je me pose pas de questions, encore une fois. Mais j'assimile énormément. Et tu vois, et mon truc, c'est que mon sacrifice, c'est que je comptais jamais mes heures pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Quand je suis investi à 100%. J'essaie pas de me dire, ouais, pourquoi je vais faire ceci pour lui, pourquoi je vais faire cela pour lui, parce que mine de rien, je vais me tirer une balle dans le pied, tout seul. Pourquoi tu veux que je le fasse? Moi, je veux m'en sortir. Donc, s'il faut que je reste plus longtemps que les autres, je reste, parce que je suis là pour apprendre. Donc, j'ai appris comme ça, tu vois. Même mes parents me disaient, mais attends, tu travailles encore plus qu'avant. Mais c'est pas ta boîte aussi. Ils disent, ouais, mais je suis en train d'apprendre des choses. Je suis avec des gens qui me ressemblent, qui parlent comme moi. Et tu vois, à l'époque, je débite beaucoup, moi. Je parlais beaucoup plus vite que ça. Donc, tu comprenais pas comment je parlais. T'as compris? Et j'avais mon ancien directeur, il me disait, bon, écoute aussi. T'as l'air d'être un mec carré, propre et tout, nana. Juste, rends-moi un service tous les matins, fais-moi un truc. Bah, t'es mon directeur, je te fais tout ce que tu veux. Il me dit, bah, tu vas aller acheter le Parisien. Et quand t'arrives au bureau à 8h, tu vas le lire à voix haute. Je dis, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Je suis pas un pantin. Il me dit, tu me fais confiance ou pas? Je dis oui. Ok. Et le fait que j'achète le Parisien tous les matins pendant des mois et je le lisais à voix haute, ça m'a permis d'avoir une meilleure élocution. Et ça m'a permis d'avoir.
Dans ton temps.
Ça m'a permis d'avoir du vocabulaire. D'accord? Et ça a permis d'être dans l'actualité. Et moi qui faisais de là, du commercial terrain, donc chez les clients, on parle de l'actualité. Et quand en face de toi, t'as un commercial, donc une personne qui est au fait de l'actualité et qui engage une conversation par rapport à un sujet précis, enrichissant, cultivé, t'es pris au sérieux. Donc quand je te dis qu'il faut faire des travaux, je vais aller faire. Parce que je suis aussi cultivé que toi. Donc tu vois, sans le savoir, parce que je lui ai fait confiance, il m'a donné une arme, mais une arme à destruction massive. Parce que ça m'ouvrait toutes les portes. Et en fait, plus j'assimilais, plus je comprenais que, bah vas-y, il faut que je monte. Et en fait, t'as vu, j'avais une ligne de conduite.
Une arme, c'est important de le dire.
Ouais.
Voilà, l'arme, elle est là.
C'est
voilà.
Ça.
Soyez cultivés, lisez, et soyez au cœur de l'actualité.
Exactement. C'est super important d'être tout le temps dans le cœur de l'actualité, de lire des livres, d'avoir une bonne élocution, d'avoir un vocabulaire enrichissant, ce qui va nous permettre de pouvoir déployer nos idées dans un réseau ou un écosystème qui peut être varié. T'as vu, parce que l'algorithme change tout le temps. On évolue dans une société où ça évolue, ça change, etc. Faut s'adapter, nous. Tu vois, on est un peu des tout-terrains, 4x4, tu vois. Donc, du coup, j'évolue dans cette sphère-là. Et ma ligne de conduite, je suis le dernier commercial arrivé. Au bout de 12 mois, il y a un poste qui se libère de directeur d'agence.
Tu touches combien à ce moment-là où
pendant les un an?
Quand le mec il te dit ouais.
5, 6, 7, 8 000 euros par mois.
Ah, quand même?
Ouais.
Ah, donc.
Non, j'ai
il
gagné.
Il avait raison. C'est ouais, pas il avait 5, raison. T'es fou,
non,
quoi.
J'ai gagné 5, 6, 7 000 euros par mois.
Ah, ok. D'accord. Bon, on travaille, on charbonne.
Charbonnais.
Mais on compte pas les heures, comme t'as
c'est
dit.
C'est ça. Ouais.
Mais au moins.
Mais voilà, j'avais le retour que j'attendais.
Mais déjà, c'est fort. On repart un peu en arrière, ton parcours. T'as redoublé 5 fois en tout.
Ouais.
C'est ça, 4 ou 5 fois.
4, ouais, 4.
Voilà, 4 fois. C'est pas. Dur, c'était compliqué.
Ouais.
Normalement, bon, Kerry James le dit, on n'est pas condamné à l'échec, mais normalement, t'es condamné à l'échec.
Ouais, plusieurs fois.
Ah, normalement. Voilà. Et en plus, tu t'appelles Hossine.
Ouais.
Sur les CV aussi, on va pas se mentir, lettre de motivation, ton blast, t'es algérien. C'est compliqué.
Ouais. Surtout à l'époque, encore pire qu'aujourd'hui.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi c'est un peu moins compliqué? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être nous, les chefs d'entreprise.
C'est ça, exactement.
C'est nous, les patrons. Ouais. Donc, on sait qu'il y a des Hossine, qu'il y a des Mamadou, qu'il y a des un tel. Donc, on sait, on les côtoie, on sait qu'ils sont pas méchants.
Exactement.
Donc, mais à l'époque, c'était pas comme ça.
Non.
Les chefs d'entreprise, c'était rare d'avoir des chefs d'entreprise rebeux, des chefs d'entreprise renois.
Ils n'avaient pas.
Voilà, c'était très rare.
Ils n'avaient pas.
Excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, il n'y a pas de problème. Donc, je gagnais 5, 6, 7 000 euros par mois, tu vois. Mes parents super fiers de moi et tout.
Et là, directeur. Poste de directeur.
Donc là, j'avais 26 ans.
Ok.
D'accord, 26 ans. 26 ans, il y a un poste de directeur qui est proposé et je suis convoqué par la direction. Je sais qu'il y a un poste à pourvoir, mais. À aucun moment de ma vie, je me dis, c'est moi qui vont choisir. Je suis le dernier arrivé.
Et ça fait un an, t'es là seulement.
Un an. Je suis le dernier arrivé, la malle. Et je suis qu'avec des loups.
Okay.
Qui m'ont appris le métier.
Ouais.
J'y vais, je fais mon entretien, et là, en fait, je suis stupéfait. Ils me disent, c'est toi qu'on veut. Je dis, mais attendez, il y a les autres avant moi. Non. T'as pas compris. C'est toi qu'on veut. je comprends pas. Et après, en fait, j'analyse. C'est vrai que pendant un an, c'est moi qui faisais les meilleurs scores. J'étais là toujours à l'heure. Ligne de conduite irréprochable. Investi à 2000% comme si c'était ma boîte. Il me dit, c'est toi qu'on veut. Tu comptes pas tes heures. T'es là, t'es investi. Tu vas de l'avant, tu trouves des solutions. Y a pas un client qui est mécontent de toi, etc. Donc, directeur d'agence, c'est toi. Donc, moi, sur le coup, je suis super content et tout, mais j'accepte. Parce que je vais encore augmenter mon salaire. C'est ce que je veux dire.
Bien sûr.
Mais maintenant, ils m'ont mis un peu mon cul entre deux chaises. C'est que maintenant, il fallait qu'ils annoncent à toute la meute
que c'était
le directeur
toi.
Je veux dire, c'était moi. Et moi, je savais pas comment faire et tout, tu vois. Je voulais pas qu'ils le prennent mal et tout, nan. Donc, ils l'annoncent. Et encore une fois, je suis stupéfait par la réaction des gens
des collègues
qui m'ont formé. À l'unanime, on dit, bah oui, pour nous, c'est logique.
Toi-même,
parce qu'en fait,
dis,
je me sous-estimais moi-même. Et quand tu te sous-estimes toi-même et que tu sais que tu dois faire beaucoup plus d'efforts que les autres, quoi qu'il arrive, hein, on reste toujours des étrangers, donc on doit faire plus que les autres. C'est ce que je veux dire. Ça, faut que ce soit bien intégré dans le cerveau des gens. Faites toujours plus que la moyenne. C'est comme ça. Allez pas chercher à savoir pourquoi ou comment.
C'est
comme ça. Faut qu'on le fasse. On le fera. Il n'y a pas de souci, on n'est pas plus fainéant que les autres. On n'est pas plus bête qu'un autre. Donc du coup, on va le faire. Donc à l'unanimité, j'ai été validé. Donc moi, super content et tout, nanan. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils m'ont donné leur confiance. Donc en fait, j'avais une relation avec eux, autant professionnelle qu'amicale, mais juste. Ils avaient
détecté
en moi ce côté de juste. C'est quelqu'un de juste, donc on peut y aller avec lui. Et c'est vrai, j'ai passé une année supplémentaire avec eux en tant que directeur. Merveilleuse, parce que je gagnais entre 10 et 12 000 euros par mois maintenant. Pas de blague, rien, sur avis d'imposition, enfin, j'ai tout.
C'est
t'as compris? J'ai gagné très très bien ma vie, là, mal. Et en fait, quand j'ai fait mon entretien d'embauche pour être directeur, ils m'ont dit, si tu nous fais une année exceptionnelle, on te rentre dans les parts avec nous. Donc, je sais pas si tu vois l'enjeu. Je rentre commercial, on me rentre dans les parts. Ils ont pas parlé chinois, les mecs. Je leur dis, attention.
Ne me vendez pas du rêve.
Ouais. Le signe que vous avez connu charbonneur, je vais faire x2 là.
Ouais.
Je vais charbonner. Vous allez gagner plus que moi. Je m'en fous de combien vous gagnez tant que moi je gagne bien ma vie.
C'est pas
mon problème. Je suis passionné par le bâtiment. Je vais apprendre et tout. En plus, quand t'as un poste de directeur, t'as un poste un peu ingrat parce que t'as la pression de tes gérants. D'accord? Mais tu dois aussi gérer la pression de ton personnel parce que je gérais un call center avec des filles dedans, la meute de commerciaux et les ouvriers.
T'es entre les deux, en fait. T'es entre la direction et Ouais, t'es la ligne, en fait. Donc c'est...
Et dis-toi bien, quand j'ai pris mon poste, j'ai une petite anecdote à raconter. J'ai créé un mouvement CGT, ils ont fait la grève. Genre au bout de 2 mois, les ouvriers ont fait grève.
Ouais.
Ils sont venus un matin, ils disent, on ne travaille plus.
T'étais choqué?
Mais j'étais choqué. Mais en fait, parce qu'ils n'avaient pas compris là où je voulais les amener. Okay. Si tu veux, avant que je prenne ce poste-là, on faisait des travaux de couverture, etc., mais sans vraiment de sécurité. Sans vraiment d'outils, etc. Et moi, j'ai toujours voulu mettre des process en place et suivant les travaux, respecter ces process-là. Il y a des normes, on les respecte. On met pas une échelle à taquet pour faire un changement de toit, on met un échafaudage avec un filet de protection. Donc du coup, tu vois, un ouvrier, quand tu lui dis, au lieu de poser 2 échelles et un bout de bois comme ça, qui lui prend peut-être 10 minutes à le faire, et toi, tu dis, bah non, tu vas poser un échafaudage, il va mettre une journée, bah il est pas content, le mec. T'as compris? Mais c'est pour son bien. Je dis, mais si tu tombes du toit, là, t'es protégé. Tu vois, alors même si on a un accident, une fois tous les 2 ans. Mais un accident, ça peut être mortel. Et moi, je suis pas là pour jouer avec la vie des gens. Et quand ils ont compris ça, ils m'ont dit, bon, ok. Donc, ils ont repris le service et tout, ils ont compris. J'ai instauré des choses, process en place, sécurité en place, j'ai fait changer les camions, je me suis vraiment investi.
Comme quoi, dans la vie, il faut, le dialogue, c'est important.
Ouais.
Parce que quand ils comprenaient pas pourquoi tant de changements,
c'est ça.
Une fois que tu leur as expliqué,
communication est importante. D'accord? Même si des fois t'as pas besoin de prendre l'avis de tes salariés, mais c'est bien de leur dire où tu vas les emmener. D'accord, c'est bien de partager. Moi, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc du coup, l'année se passe bien et tout. Je gagne très bien ma vie et tout. Donc là, le moment du bilan. Super content. Ils ont gagné plus d'argent.
Tu savais toi déjà, toi.
Bien sûr. Bien sûr. Ils ont atteint les objectifs et tout. Nanana. Donc je me dis, bah allez, ça y est. Je vais passer gérant parce qu'un gérant à cette époque-là, il avait un 4x4 Mercedes de fonction,
oh là là,
t'as compris?
Ouais.
Il prenait des parts, donc des dividendes, et t'as eu la possibilité d'ouvrir d'autres agences régionales, donc tu vois, tu développais un peu plus. Donc je m'attendais qu'on me fasse la proposition. Mais à un moment donné, je suis tombé sur des gens donc, que j'apprécie beaucoup parce qu'encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux. Parce que quoi qu'il en soit, d'où je pars toujours bien. C'est important pour moi. Et ça, tu vois, ça, c'est l'éducation de mes parents. Peu importe le mal qu'on t'a fait, tu pars bien. Tu passes à autre chose. Déjà, pour toi, si tu pars mal, c'est que ça te ronge. Ça te ronge. On est humain, on a une fierté, t'as compris? Ça te ronge. Pars bien, c'est pas grave. Laisse. Il y a Dieu. Tranquille. Fais ton chemin. Quoi qu'il arrive, comme on dit chez nous, le risque, donc notre part du gâteau, personne ne peut nous l'enlever, c'est Dieu qui nous la donne. Au mérite. C'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est important. Et moi, j'avais cette éducation-là, très solide de mes parents. Alors, tu vois, mes parents, moi, ils allaient pas nous donner un héritage, genre, une fois qu'ils vont mourir, on aura un pavillon, des biens immobiliers. Ils m'ont donné l'éducation. Et c'est grâce à cette éducation qu'aujourd'hui, ces valeurs qu'ils m'ont transmises, que je suis devenu cet homme-là. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est grave important. La famille, c'est important. Et grâce à mes parents, qui n'avaient pas de moyens, ben, ils ont construit des vrais hommes. Parce que mes frères aussi, ils entreprennent, etc., tu vois. Donc, du coup, on avait une vraie éducation. Et c'est ce qui m'a permis, tu vois, comme un gilet pare-balles, ok, tu m'as fait mal, mais tu m'as pas tué. Il n'y a pas mort d'homme.
Tranquille.
Donc, le bilan, il est là. On fait le point, on met à table, tac, tac, l'échec, j'ai gagné bien de l'argent et tout, nan, nan. Ils me disent, ouais, on va repousser d'un an.
Ah ouais.
Je dis, mais attendez, les gars, vous m'avez dit. Je fais une année pleine, bien. Il me dit, ouais, mais on ne te sent pas vraiment prêt, etc. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une disquette qui était en train de se mettre en place. Je lui dis, d'accord. Moi, je vais te dire, je suis cérébral. C'est-à-dire que tu m'as promis un truc, t'y tiens. T'y tiens pas, je vais pas te faire la guerre.
De ouf, tranquille.
Je te pose ma démission.
Mmh.
Je te pose ma démission. Non, tu peux pas nous faire ça. Bah, tu me permets de me faire ça, je te fais ça, pas de problème. Attends, je pose ma démission, sauf qu'en fait, en posant ma démission, donc j'ai un préavis de 2 mois à faire. Il y a un truc que je ne m'attendais pas, c'est la réaction de mes parents. T'as un fils qui gagne 10-12 000 euros par mois et qui démissionne. Tu crois que ça se passe comment à la maison?
Mais il est malade.
Parce que moi, je vais toujours chez mes parents. Ouais, mais
ah ouais.
Mes parents, ils m'ont fait la gueule, ils m'ont fait la guerre. Non, 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 aussi, tu sais pas la chance que t'as. Merboulenta, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es aveugle. Tu gagnes 10-12 000, on n'a jamais gagné ça. Toi, tu vas démissionner? Tu démissionnes pas. Et moi, tête de mule que je suis. Si je démissionne. Voilà. Non, tu démissionnes pas. Si je démissionne.
Des aides.
Je démissionne. Ouais, je démissionne.
C'est vrai que, moi, je suis haïtien, on s'est jamais posé la question. Dans une maison de des aides, dans une maison d'Algériens, tout le monde est têtu, tout le
ah
monde
ouais,
est. Donc,
non,
comment,
tout le monde est têtu.
Comment on fait pour.
Bah, après, tu laisses le patriarche parler.
Et c'est lui qui décide.
Non, il a pas décidé cette fois-ci.
Ah ouais.
Ah non, il a pas décidé. J'étais. Parce qu'en fait, ils m'ont fait tellement mal. Parce que moi, je les ai protégés toute l'année. J'ai fait tout ce que je devais faire toute l'année. Et à la fin, ils n'étaient pas avec moi. Tu vois, ça m'a fait mal. Et donc, j'ai démissionné par principe. Moi, j'ai des principes, je démissionne. Je m'en fous.
Valeur,
tu m'auras pas
principe.
Par l'argent. Voilà. Moi, tu m'auras pas par l'argent. Encore aujourd'hui, tu m'achètes pas, moi. Moi, si je t'aime même, tu gagnes le signe, je m'en fous. Justement, je suis pas dans le truc statut social. Et quand tu vois mon cercle proche, bah voilà. C'est pas des gens qui gagnent des millions. Au contraire, c'est des gens qui ont des valeurs. Et ces valeurs-là sont inestimables. Tu comprends?
Tu sais, j'aime bien ce que tu dis. Là où c'est pour ça que je t'aime bien aussi, de toute façon. Il y a un jour, il y a un mec qui m'a posé une question, mon gars Ryan, sûr et certain, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Il me dit, si, là, il y a 6ix9ine, demain, en interview, il vient et il veut faire une interview avec toi. Il veut venir à Génération et il te donne 1 million. Tu prends ou tu prends pas? Non, il y a 6ix9ine qui vient et qui veut faire une émission. Je lui dis, je le prends pas, c'est une balance. Il me dit, 6ix9ine. Je dis, non, c'est une balance. Il rentre pas dans mon émission, en tout cas, je le prends pas. Il me dit, si, il te propose 1 million. J'ai dit 1 million, je le prends pas.
Bah ouais.
Il me dit, mais 1 milliard. 1 milliard, je le prends pas, poteau. T'as fait pleurer des
bah
mères,
oui.
des gens, des trucs.
Bien
t'as
sûr.
Balancé. T'as pas de valeur, t'as pas de principe. Tu peux me donner tout l'or du
Exactement.
Monde que tu veux.
On se mélange pas.
Voilà.
Et ça, c'est important.
Excuse-moi, c'était une petite parenthèse.
Pas de problème.
Pour les
Donc,
valeurs,
j'ai la guerre à la maison, parce que moi, j'ai vécu longtemps, je vais t'expliquer après, chez mes parents.
Voilà.
J'avais 27 ans. Et mes parents qui me disent, non, Ossine, tu peux pas faire ça et tout, nanana. Et j'ai mes patrons qui appellent mes parents. Donc, tu vois, j'ai le soir, je rentre, j'ai le SOS de mes parents, tu démissionnes pas. La journée, j'ai mes patrons qui essaient de mettre des disquettes, mais moi, je suis figé. Non, je pars. Je pars bien, mais je pars. Et tu vois, à un moment donné, au bout de 2 semaines, 3 semaines, quand ils ont vu que j'étais assis sur ma chaise et que je bougerais pas, ils ont compris. Donc, pour mon père et ma mère, je faisais une très grosse erreur. Mais je reste leur fils. Je leur ai prouvé que je pouvais m'en sortir. Moi, je leur ai dit, écoutez, ils ont plus rien à m'apprendre. C'est moi le fer de lance de la société. C'est moi le moteur. Eux, c'est 4 roues. Moi, je suis le moteur. Un moteur, tu l'enlèves, tu le mets dans une voiture, elle roule. Les 4 roues restent là-bas, c'est fini. J'ai dit, moi, je suis le moteur. Faites-moi confiance. Mes parents, ok, ils lâchent l'affaire. Les autres, ils essaient de me reprendre. Vas-y, on t'achète une voiture, on t'achète ceci, je te donne mon appartement. Je te donne mon appartement, viens et tout. Non, non, tu ne m'achèteras pas. Parce que si t'es capable de me faire ça à cette échelle-là, plus tard, quand on parlera de millions, il y aura des problèmes. Donc laisse tomber, moi je me lève pas le matin pour m'embrouiller avec les gens. Là on est dans le monde du travail, je veux que travailler, moi je travaille bien. Mon dû c'est mon dû, le tien c'est le tien, tu gagnes 10 fois plus que moi, c'est pas mon problème tant que moi je gagne bien.
Je rentre pas dans ta poche,
voilà,
on s'était mis d'accord sur un truc, voilà. Mais quand on se dit quelque chose, on s'y tient.
C'est ça.
Lourd.
En parallèle, j'avais 2-3 potes à moi qui ont monté une société, et qui me disent, écoute, nous on est dans le 95, on veut ouvrir une succursale dans le 94. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Donc eux, ils avaient leur boîte dans le 95, je monte la société avec eux, c'était BG. D'accord. Je monte la société avec eux, c'était BG, à Rungis dans 94. Donc là, avant de la monter, je vais demander conseil à mon père. J'ai 27 ans, j'ai de l'argent de côté, j'ai un âge où je peux me marier, t'as compris? Mais j'ai un choix à faire. C'est soit l'argent que j'ai mis de côté.
Je l'investis dans la
société. Boîte. Ou soit, bah, je mets un petit investissement et à ce moment-là, je vais monter petit à petit avec du temps et je me marie. Et je trouve un appart ou une maison, etc. T'as compris? Donc, je savais pas quoi faire. Quel projet prendre? Le pro ou le perso? Tu vois? Et là, mon père, tu vois, cela, je lui dis, l'importance de la famille, c'est important, etc. Parce que, encore une fois, il m'a prouvé que, sans eux, sans mes parents, jamais, jamais, j'aurais pris les bonnes décisions. Et je remercierai jamais assez mes parents. Je leur dis tous les jours, tu vois, je vais les voir tous les jours et tout. J'habite en face d'eux.
Ah ouais?
Ouais, j'habite en face de chez eux. Donc, du coup, pour moi, c'est trop important. Et la vérité. Donc du coup, il me dit, écoute, il y a un juste milieu. T'as un savoir-faire, tu veux monter ta boîte, mais tu veux te marier, etc. Monte ta boîte, tu peux continuer à vivre chez nous. On est en 2007. Hein. Tu peux continuer à vivre chez nous et tout, nanan. Mais je te donne une condition. Je dis, vas-y, bah quoi? Il me dit, t'as vu, chez moi, c'est pas la MJC. C'est pas, tu gagnes bien ta vie, tu dépenses à tout va.
Et t'investis pas.
Et t'investis pas.
Et tu t'investis pas dans la maison, c'est normal.
Donc il me dit, tous les mois, je veux voir ton relevé bancaire. Donc,
pour voir ce que tu dépenses.
Ouais.
Il te demande pas, ouais, paye des trucs. Il te dit juste, je veux
mon
voir.
Mon père, il m'a jamais demandé d'argent. Mes parents, ils m'ont jamais demandé, tiens, tu nous payes, tu gagnes bien ta vie. Non. Quand je voyais qu'ils avaient besoin, je donnais bien naturellement. T'as compris? C'est normal. Mais ils m'ont jamais, jamais demandé un euro, mes parents. Autant ils nous donnaient de l'éducation qui a une valeur inestimable, mais monétaire, jamais. D'accord?
Ils voulaient juste voir ton relevé. Voilà. En quoi tu...
Donc, il prend mon relevé et dit, bon, écoute. Abonnement cinéma, annule. Sortie restaurant, annule. Donc en fait, je me retrouve avec plein de restrictions. On me dit, t'annules. D'accord? T'as bien gagné ta vie, t'as bien kiffé, nanana. Maintenant, tu vois, pour être son propre patron, faut avoir quand même de l'argent, quoi qu'il arrive, une pomme pour la soif de côté, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. T'as mis l'argent de côté, c'est bien. À l'époque, j'avais mis peut-être 70 ou 80 000 euros de côté. Donc c'est 70, 80 000 euros.
Ouais. 27 ans, 80 balles de côté.
Bien sûr, mais j'avais charbonné.
En travaillant.
Ouais, mais tu vois, encore une fois. J'ai pas dit, ouais, je gagne bien ma vie, je vais prendre mon appart, je vais mettre des charges, je vais faire le mec qui vit tout seul, olé olé, je vais aller au restaurant, je vais aller sortir des meufs, je vais aller en te bois, etc. T'as compris? Moi, les gens, à l'époque...
Oui, t'étais quand même réfléchi.
Voilà, moi, à l'époque, avant de passer mon BTS et ma licence, et etc., les gens, ils se moquaient de moi, quand ils me disaient, viens, nous, on va en boîte, je leur dis, non, je vais réviser.
Lourd.
Mes potes, ils se moquaient de moi. Donc, tu vois, j'avais cette habitude de moquerie, de dire, ouais, vas-y, laisse tomber le mec, il a rien compris. Donc, en fait, quand j'ai monté ma boîte avec mes amis, donc j'ai mis les 70 000 ou 80 000 euros injectés dans l'activité de la boîte.
T'as mis tout ton argent?
Ouais.
Ok.
Parce que encore une fois, j'avais un savoir-faire.
Oui, tu t'es dit, vendre. J'investis, voilà. Je m'inquiète pas
je
pour
savais
moi.
Vendre.
J'ai quelque chose. C'est pas j'investis
non.
dans Inch'Allah.
C'est ça.
On verra, advienne que pourra. Non, là
c'est ça.
J'investis, mais je sais.
Voilà, c'est-à-dire j'étais un bon commercial. Je savais vendre des travaux. Donc les 70 000 m'ont permis de quoi? De prendre un local à Rungis, dans la zone silique. D'accord? Il fallait payer 3 mois d'avance. 6 mois d'avance. Fallait acheter des bureaux, fallait, t'as compris, c'est des frais.
Ouais,
fallait avancer les travaux, etc. Donc, quand j'ai commencé, j'ai mis tapis sur ma propre boîte en association. Tu vois. Et encore une fois, mes parents, ils me disent, bon, on te fait confiance, mais on sait pas où tu vas, mais reste à la maison. Tu te casses la gueule, t'as pas une charge supplémentaire de payer un loyer, etc. T'as compris? Parce que plus on se met des charges, plus on a un train de vie élevé et le bien risque, sûr. Il est élevé aussi, tu vois. Le jour où tu te casses la gueule, pour faire marche arrière, c'est très compliqué. Donc, mon père me dit, non, tu restes à la maison. En fait, pendant toutes ces années-là, je t'expliquais, les gens se moquaient de moi. Ils disaient, ouais, mais tu vois, lui, là, il est chef d'entreprise. Ouais, c'est bien.
Il vit chez ses parents.
Mais il vit chez ses parents. Et c'est pour ça que je dis, c'est très important de prendre en compte qu'il n'y a pas d'âge pour quitter ses parents. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour acheter une maison. Quand ça arrive, ça arrive. Faut pas se dire, tiens, à 25 ans, j'ai ça. Parce que si tu l'as pas, déjà dans ta tête en mode échec. Et ça, c'est pas bon. Tu vois, c'est ça que je vais faire comprendre aux jeunes. Restez collés le plus longtemps possible à vos parents. Sauf si c'est des parents parasites, c'est normal qu'on les quitte. Mais si vous avez des parents, non mais c'est important. Si c'est des parents de bonne éducation qui vous donnent de la bonne éducation, voilà, de l'attention, restez avec vos parents. Même jusqu'à 35 ans, on s'en fout. C'est pas les gens qui se moquent de toi qui te ramènent à manger. Par contre, le jour où tu tombes, c'est tes parents que tu trouves sur ton chemin. Ou ta famille. Donc, rester proche de votre famille, c'est très important. Donc, moi, j'ai eu la chance, tu vois, d'avoir ma famille. Donc, encore une fois, mes parents, ils m'ont sauvé, mine de rien. Donc, j'ai monté ma petite boîte, j'ai mis tapis, j'avais plus d'économie, etc. Les gens, ils se moquaient de moi, c'est pas grave. Je me suis marié en 2010. Donc, 3 ans se sont écoulés. Au début, la première année, en 2007, on était 4 associés. Il y en avait un qui gérait la boîte du 95. Et pour lancer l'activité de celle du 94, on avait Damien qui faisait le commercial terrain. Et moi et Cédric, on faisait les chantiers.
Ok.
Donc j'étais d'un, je passe d'un mec qui gagne 10-12 000 euros.
À se retrouver sur les chantiers.
Et je gagne pas un euro.
Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire.
Non. Pendant 6-8 mois, je prenais pas de salaire.
Et il y avait quand même des rentrées dans l'entreprise. Vous avez.
Il y avait des rentrées dans l'entreprise.
Des clients, des
Bien
trucs.
Sûr.
Ça va quand même.
Ouais.
Au bout de combien de temps vous avez réussi ça à trouver
nous,
des clients?
Quand je dis qu'on avait une force commerciale extraordinaire, c'est que quand moi, Cédric et Rabat à l'époque et Damien, on allait sur le terrain, en un mois, on signait 150 000, 200 000 euros de travaux.
Ok.
T'as compris? Okay. On avait ce savoir-faire-là, tu vois. Donc du coup, on n'avait pas peur. Mais on était prêt à faire les sacrifices. Et je te jure que j'ai encore cette image-là où je parle avec mon pote Cédric dans le grenier. On évacuait de la laine de verre. Et je dis, putain, mais Cédric, je suis en train d'évacuer de la laine de verre. Alors, je gagnais 10-12 000 euros par mois. J'espère qu'on n'est pas en train de se louper. Il me disait, non, t'inquiète, on est plusieurs. T'inquiète, on va y arriver. Et je te jure, pendant des mois, on faisait des chantiers de couverture, de comble. Je mangeais la poussière, je ramassais les merdes et tout. Je faisais mon ouvrier. Alors, je gagnais 10-12 000 euros. J'ai pas hésité. Pourquoi? Parce que je connaissais ma valeur sur le marché. Je connaissais ma valeur. C'était juste une question de temps. Il fallait que je sois patient. Tu vois ce que je veux? J'avais pas le choix. Donc, pendant 3 ans, tout se passait bien, etc. J'arrive en 2010. Je vais revoir mon père. Je dis, bah, écoute, voilà, papa, je vais me marier et tout, nanan. Et tu vois, c'est pendant ces 3 ans-là, bah, je gagnais bien ma vie. Moins qu'avant, mais je gagnais très bien. Sauf que je dépensais pas du tout mon argent. Et donc, du coup, le fait que, bah, je mangeais à la gamelle au bureau ou en clientèle de ma mère, que je faisais plus de restaurant, puis de cinéma, que je faisais attention à mes dépenses, etc. Tu vois, même quand je partais en vacances, je faisais très attention. Des fois, je partais même pas. Et ben, tu vois, après, il y avait une maison dans ma rue, en face de mes parents, qui s'est libérée. Ben, je l'ai acheté cash. Et c'est là que j'ai commencé à éteindre tout le monde.
Attends. Ça, j'aime quand on parle, hein, de Raham. Voilà. Non. Si tu mets combien de temps déjà avant que l'entreprise commence à.
6-8 mois.
6-8 mois.
Ouais. J'avais de l'argent.
Adverser un salaire.
Ouais, j'aurais pu prendre même bien avant.
Oui, t'aurais pu bien avant ouais. Parce que voilà.
Mais t'as vu, moi, j'ai une politique
etc.
d'entreprise qui. Faut miser pour miser pour miser pour miser, miser, tu gagnes plus. T'as compris? Fallait qu'on achète des camions. Fallait qu'on provisionne de l'argent pour payer des salariés pendant 3-4 mois d'avance. T'as compris? Donc tout ça, on provisionnait. En fait, c'est cette gestion, contrôle de gestion. T'as compris? PME, PMI, qui m'a aidé à comprendre le monde dans lequel j'évoluais. C'est pour ça que j'avais de l'avance sur les autres.
Et t'as préféré garder de l'argent et ne pas te payer pour ouais. pouvoir payer tes employés,
bien sûr.
Pour qu'ils restent dans l'entreprise et pouvoir que toi te payer.
Et à un moment donné, quand on a trouvé notre vitesse de croisière, on encaissait bien, et là, j'ai pris des salaires. D'accord, j'ai pris des salaires, j'ai mis de l'argent de côté.
Et t'as réussi à prendre un salaire à hauteur de 12 000 euros comme tu prenais avant?
Au début, je prenais 6 000.
Ok.
6, 8, 10. Après, ouais, je prenais 10, 12 000 tous les mois.
Ok.
T'as compris?
Ok.
10, 12 000 tous les mois et je mettais en fait presque tout l'argent de côté.
Regarde ce qu'on va faire aussi, non? On va se quitter là. On va se quitter là.
J'ai dit qu'il fallait plusieurs parties.
On va faire une deuxième partie, voilà. Vas-y. On va faire une deuxième partie
parce que la suite, elle est très intéressante. Par de la moquerie, par des prises de décision, par un suivi de mes parents encore une fois. Par ma vision de l'entrepreneuriat et de la société dans laquelle on évolue à l'époque. J'ai pas mal de choses encore à dire et j'espère que je vais inspirer des adolescents et des jeunes pour leur faire comprendre que le message que je vais véhiculer, à travers en tout cas mon Instagram, qui est aussi une noiderie, c'est que même si tu vois du lifestyle, même si tu vois des voitures, même si tu vois des vidéos d'entrepreneuriat, si j'arrive à capter un petit truc en toi, qu'il soit le lifestyle ou le kiff des montres, ou le kiff de l'entrepreneuriat, bah kiff, mais apprends et mets en place. Parce que tu vois, aujourd'hui, on monte. Moi, je suis la deuxième génération, mes parents la première d'étrangers, d'immigrés. Et je veux qu'on crée un écosystème qui soit créé sur des valeurs, donc des piliers de base, des vraies valeurs, et qu'on s'entraide, qu'on échange entre nous, qu'on s'apprend entre nous, qu'on se cultive de savoir-faire. T'as compris, comme toi, t'as ton vécu, moi le mien. On discute, on aide les gens qu'on a besoin. aider, c'est pas que de les aider par l'argent, mais des fois c'est leur donner des petits tips qui vont créer des déclics chez eux. Et des fois, je jure, c'est minime. Et ça, j'en suis conscient qu'il y a plein de jeunes qui sont un peu perdus, etc., qui ont juste besoin qu'on soit un peu leur boussole, tu vois, leur faire comprendre des choses. Des fois, ça peut prendre 5, 10 minutes, voire une heure. Mais c'est quoi dans une journée ou c'est quoi dans une vie? Et je te jure qu'après, les gens te le redonnent. Et ce que je veux, en fait, c'est que, à travers tout ça, ces gens-là qu'on a aidés aident les autres, et ainsi de suite, et qu'on crée une chaîne, tu vois.
Et comme on disait, voilà, avoir des chefs d'entreprise comme nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et après, ça sera normal, en vrai, voilà, d'avoir des Renois et des Rebeux, ou des gens issus des quartiers, des Blancs issus des quartiers, des minorités, chefs d'entreprise, avec nos codes, nos valeurs, nos principes.
Exactement.
Et on n'attendra rien des personnes au-dessus de nous.
Voilà, et qu'on crée un monde un peu cosmopolite. Et moi, tu viens dans ma société, pour finir. C'est comme la cosmopolitanie, c'est-à-dire que chez moi, il y a des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Jaunes, tout ce que tu veux. Il y a des athées, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des homosexuels, des bi et des hétéros, il y a tout. J'ai tout. J'ai aucune dénigration. Je prends tout le monde. T'es motivé? Viens. T'es discipliné? Viens. Tu veux travailler? Viens. Tu sais pas le métier? Viens, je t'apprends. Mais venez juste avec une discipline. Parce que tu vois, je rencontre plein de jeunes qui me disent « Mais moi, je suis motivé à mort !» Mais ils ont aucune discipline. Comment tu veux réussir? T'as compris? T'es obligé de te mettre des règles. T'es obligé. Et donc, au prochain chapitre, je donnerai mes règles.
On va te poser la question, comment on fait pour intégrer, voilà, si on veut travailler avec Austin, si on veut apprendre, si tu veux, par exemple, même moi, qui sait, il n'y a pas d'âge, hein, de toute façon, pour apprendre. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je peux rentrer dans ton entreprise, tu m'apprends comment on fait.
Exactement.
Et voilà, après, je monte mon entreprise comme la tienne.
Il n'y a pas de problème, il y a à manger pour tout le monde. C'est ça que les gens ne sont pas conscients. Les gens, des fois, vont te brider volontairement en pensant que si ils te donnent un savoir-faire, tu vas manger leur part. Mais non, c'est pas toi qui se décide. On reste des croyants, c'est Dieu qui décide.
Exactement.
Donc, aucun moment, on va se voler les uns les autres.
Et on peut être multi-casquette aussi.
Exactement.
Multi-casquette, multi-tâche, parce que, voilà, comme je disais, hein, t'es dans la musique.
Il faut s'entourer de bonnes personnes, c'est tout. T'as compris? Des projets, on m'en soumet plein. J'y adhère pas tous parce que je suis un humain comme tout le monde, j'ai pas trop le temps. Et quand je rentre dans un projet, je veux y rentrer avec toute ma force, toute ma volonté et tout mon temps à y être consacré. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important pour moi, cette aventure humaine, parce qu'on rencontre des gens extraordinaires. Tu vois, il y a des gens, ils ont des parcours encore plus chaotiques que moi et qui ont réussi plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est important que tu donnes la chance, et je te remercie, à des gens comme moi, de parler, de raconter leur vécu pour inspirer. On est là juste pour inspirer les gens. On n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. On n'a plus rien à prouver. On essaie de vous inspirer pour vous aider à réussir. C'est tout.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, c'est même pas moi en vrai, c'est vous. C'est grâce à vos parcours que ça me donne envie de vous prendre et de mettre en lumière un peu ce parcours-là pour que les gens puissent se dire, voilà, c'est possible. On était en galère. Souvent, je te dis, je prends en exemple les gens de Desecpa. Souvent, parce que souvent, on est là. Moi, j'étais un cancre à l'école. J'étais super nul aussi, pareil. Et voilà, on ne dit pas qu'on a réussi, comme je dis, mais au moins, la réussite, c'est pas l'argent, c'est aujourd'hui on est épanoui. Voilà, on s'est marié ou pas, ou on a famille. Ouais. La réussite, c'est pas que de l'argent, ou avoir être propriétaire, ou être. C'est voilà. Aujourd'hui, avoir un beau métier que t'aimes, que
tu kiffes. Faut toujours être passionné. Je vais te raconter une petite anecdote pour finir. Toujours avec mon père. Et un jour, tu sais, quand j'étais commercial, je commençais à bien gagner ma vie, 5, 6, 7, 8 000 euros, je faisais le cacou un peu chez moi. Je venais, regarde, papa. 5 000. Ouais, papa. 6 000. Ouais, papa. 7 000.
Un autre. Tu es rentré dans un saloon, quoi. Ouais. T'étais le shérif du comté.
J'étais le coq de la basse-cour, frérot. Et un jour, mon père me dit, bon, arrête ton cinéma à 2 balles, là, hein. Je vais te dire un truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien tu gagnes. Combien tu donnes. Encore, tu vois, je me dis, mais lui, il est toujours en train de me casser, en fait. Il me cassait pas. Il me transmettait une éducation en or. Partage, c'est tout. Si tu gagnes bien ta vie et que t'es bien éduqué, tu vas partager. Dieu, il te teste. Il te met à cette place-là pour te tester ton comportement. Si tu te comportes mal, tu sors, c'est un autre. Donc, comporte-toi bien. C'est pour ça que je dis, c'est facile d'atteindre les montagnes, mais il faut y rester. Mais avec des vraies bases, avec des vrais principes, de valeurs. Ne pas oublier l'entraide. Pour finir.
Merci, merci Ossine. On va se faire une deuxième partie, avec ça c'est plaisir. Sûr et certain, parce qu'on veut savoir, voilà, comment on fait pour intégrer, comment on fait pour être, faire partie, comment on fait pour être ton ami. J'ai envie d'être ton ami même.
Mais tu l'es déjà, la malle. Non, mais pour ceux qui sont curieux un peu de connaître mon quotidien, après je suis pas trop un influenceur qui met beaucoup de contenu sur Insta. Moi j'ai Insta et ma chaîne YouTube que j'ai un peu abandonné, mais je vais relancer parce que je faisais des vlogs de mon quotidien.
C'est intéressant, c'est important.
C'est ce qu'ils me disent, les gens qui me suivent. Ils me disent, mais aussi, continue, tu sais pas la richesse que tu donnes. Parce qu'en fait, je divulgue tout, tous mes secrets de réussite, mes clés commerciales, tout. T'as compris, j'ai pas de filtre.
C'est important de le faire.
Donc, tu vois, je le fais, j'ai arrêté de le faire parce que par manque de temps et tout, je vais le refaire, bah, pas de problème. Mais au quotidien sur Insta, donc Ossine Nouadri, je mets un peu mon quotidien de chef d'entreprise.
Ossine, tiré du bas.
Nouadri.
Nouadri.
Voilà, N-O-U-A-D-R-I. Et je mets mon quotidien, je montre mes clés, comment j'investis, comment j'ai réagi à certains points négatifs aussi du quotidien. Ça m'arrive, des fois je suis énervé, des fois je suis cool. Voilà, je suis...
être humain, tout simplement.
Voilà, je suis pas un robot.
Tout simplement. Merci aussi, en tout cas.
Merci à toi,
d'être venu dans l'Octogone. On se retrouve dimanche prochain, la famille, pour un Octogone de folie, on t'a dit. Show !
Génération Hip-Hop Soul Radio.